Ce matin, je vais prendre dans Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 9. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps, je résume. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 9, verset 4, pardon, 3, 4. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui sert à la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec une justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu fondée sur la foi. Mon but et de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Dans ce passage, Paul évoque tout ce qu'il était avant la conversion, sa conversion, et qu'il considère désormais comme une perte, comme de la boue, dit-il, pour obtenir, d'ailleurs il le dira au verset 14, pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. On a là le siècle à venir dont on parlait hier, qui chevauche le siècle présent. Je voudrais dire juste, sans m'attarder davantage là-dessus, c'est que Paul ne dit pas, il dit, mais il ne dit pas. Il ne dit pas que les valeurs humaines, intellectuelles et sociales sont des ordures et de la boue. Attention, il ne dit pas ça. Dans le passé, les églises qui interprétaient ça comme ça, c'est pour ça l'interprétation, il faut faire attention. La parole dit, mais nous interprétons. Il ne dit pas ça. Mais elles le sont, ou elles le seront, des ordures, etc., au regard de la connaissance. Elles le sont au regard de la connaissance d'une relation avec Christ. Quand on n'a pas de relation avec Christ, on élève la connaissance intellectuelle. Et comme je le disais hier, c'est très grec, puisque les Grecs ont défini ça comme dans leur philosophie, dans leur manière de comprendre que l'intelligence est l'esprit. L'esprit étant une sorte de condensé de l'intelligence pour les Grecs. Et donc il fallait se débarrasser du corps, de l'âme, enfin de tout ce qui est imparfait, pour s'élever dans l'esprit. Ça, c'est de la philosophie grecque, c'est du dualisme. On parlait tout à l'heure du dualisme. Mais nous, on n'est pas dans la philosophie grecque, mais sachez que quand l'apôtre Paul a témoigné à l'Areopage, dans 1 Corinthiens, tout le chapitre 1er, il parle de sagesse. Il dit, les Grecs, ils demandent la sagesse, et les Juifs, ils demandent des miracles. Pourquoi les Juifs demandent des miracles ? Sans arrêt, ils disaient à Jésus, mais fais des miracles. Il en faisait, mais ça ne leur suffisait pas. Il faisait qu'il le fasse sur commande. Maintenant, fais un miracle. Et si tu fais un miracle, on te croit. Voilà, on te croit. Tous les miracles qu'ils faisaient, non, ça ne suffisait pas. Voilà. Pourquoi ils demandaient les miracles, les Juifs ? Bon, les Grecs, la sagesse, vous le comprenez, puisque la sagesse, c'est la plus haute nature de science qu'on peut chercher, de bien se comporter dans la vie, c'est la sagesse. Bon. Donc on peut le comprendre, tous les hommes de toute la terre cherchent la sagesse, d'être heureux dans ce monde. Voilà, donc il faut bien se comporter, pas faire de bêtises, faire les bons choix, etc. Tout ça, c'est de la sagesse, c'est bien. Mais c'est de la boue au regard de Christ. C'est pas de la boue en soi, c'est très bien. Très bien, ceux qui connaissent que ça, c'est quand même mieux d'avoir la sagesse que de sortir les kalachnikovs et de terroriser les gens. Vous êtes d'accord? Vous voyez, c'est relatif tout ça. Hein, la relativité des mœurs, c'est mieux d'avoir de la sagesse que le reste. Mais au regard de la Bible, non. Quand on connaît Christ, c'est à des années-lumière de cette sagesse. Voilà. Mais revenons aux Juifs. Pourquoi chercher les miracles? Pardon? Ben non, puisqu'il faisait des miracles, Jésus. Donc, Dieu. Jésus. Ah, commence déjà à être plus précis. Voilà. Ben, tout simplement, c'est très simple, c'est religieux. Où on est dans la religion, on est dans la relation. Oui. C'est le problème. Et le problème est que nous, on peut être dans la relation. Regardez les évangéliques qui rencontrent Jésus. Ils sont dans la relation. Mais ça finit par la religion. C'est quoi la différence entre la religion et la relation? Alors je dirais un peu autrement, la religion est basée sur les rites, pas tellement sur la loi, sur les rites. Sur les rites. Un rite, c'est quelque chose qu'on fait, même si on ne sait pas à quoi ça sert, on le fait. Voyez ? Dans la messe, demander. Moi, j'étais vraiment engagé dans le catholicisme très très fort. Hein. J'allais même servir la messe ce matin à 4h30, 5h du matin dans les hôpitaux. Je me levais, voilà. Et ensuite, la messe à 7h, la messe à 10h. Bon, ok. Mais demander, même moi, je ne savais pas très bien ce qui se passait dans la messe, alors que je servais la messe. Parce que c'est du latin. Moi, je n'ai jamais fait de latin à l'école. Je déteste ça. Je n'ai jamais fait, et je devais dire des choses en latin, répondre au curé, tout ça, voilà. Ça, c'est des rites, c'est-à-dire que vous dites quelque chose, vous ne savez pas du tout ce que ça dit. Moi, je n'ai jamais su ce que je disais. Bon, Kyrie eleison, j'avais entendu ce que ça veut dire. Voyez, donc, les rites, c'est ça. Vous faites quelque chose de sacré, alors surtout, il ne faut pas toucher sacré, mais voilà, et ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, vous ne savez pas quand. Le baptême des enfants, c'est, ils disent, mais ça fait quelque chose. Peut-être qu'à 77 ans, ça va se réveiller grâce au baptême et vous allez connaître Dieu. Voilà, c'est ça, ils expliquent ça comme ça. Quand on discute sur le baptême. Enfin bref, des rites. Est-ce que nous ne rentrons pas dans des rites? Nous sommes rituels. Et parfois, il faut avoir des rites. Je veux dire, quand moi, pendant toute ma vie, je sortais aux Mureaux, là, mais quand je vais sur Paris, des fois, je vois sortir des Mureaux parce que là, j'avais un rite, j'avais développé un réflexe, vous voyez. Mais est-ce que la relation avec Dieu, c'est un réflexe? Est-ce que c'est un rite ou est-ce que c'est une relation qu'on entretient, comme dans un couple? On l'entretient par la communication, par l'échange, c'est ça la vie. Allô? Est-ce qu'on veut des rites ou on veut des relations? C'est là toute la question. Et on tombe très vite dans les rites, très vite dans une routine. Et c'est ça notre danger. Et c'est ça le danger des Juifs. Et les Juifs, ils ont connu Dieu essentiellement par la sortie d'Égypte. Rappelez-vous la sortie d'Égypte. Ils étaient nombreux, alors qu'avant c'était juste une tribu. C'était la tribu de Jacob. Tribus. Et quand ils étaient en Égypte 450 ans, ils sont sortis des centaines, voire des milliers, traversaient la mer Rouge, etc. Ça les a frappés. Que Dieu intervienne par un miracle. Et la Pâque est basée là-dessus. Toute la Pâque des Juifs, aujourd'hui encore, est basée sur cet événement. Voilà. Donc ils ont connu Dieu au travers d'un miracle. Et ils cherchaient un miracle. Ils cherchaient un miracle. Parce qu'ils n'ont pas découvert Dieu dans une relation, ils ont découvert dans un rite de passage qui constitue le peuple, puisqu'après, au Sinaï, Moïse a constitué le peuple par la constitution que Dieu leur a donnée sur le décalogue, enfin, sur le Pentateuque, les cinq premiers livres qui fondent le peuple juif. Mais ils sont toujours là-dessus. Ils n'ont pas évolué. Quand Jésus est venu et a établi une relation avec la prostituée, avec Zachée, avec tous les gens de mauvaise vie, bien sûr, qui avaient, depuis leur rite, eu un mauvais point, si vous voulez. Ce n'est pas des gens fréquentables, ce n'est pas des gens, voilà, surtout pas les femmes. Hein. Bon, voilà, parce que nous. Voilà. Les Sadducéens, c'est qui les Sadducéens? C'est les descendants de Tsadok, souverain sacrificateur qui a remplacé Aaron. Donc les Sadducéens, c'était les gardiens du temple. Et c'était au-dessus des pharisiens. C'est eux qui gardaient le temple. C'était les aristocrates de la nation d'Israël qui gardaient le temple. Qui devaient bien sûr connaître, comme les pharisiens, la Bible par cœur. Qu'est-ce qu'ils croyaient? Ils ne croyaient pas en la résurrection. Mes amis, Israël est mal parti. On ne croit pas à la résurrection de Jésus. Hello. Et Paul le savait. Il en jouait. Paul était un petit malin, lui. Il en jouait. En fait, il a posé la question, parce qu'il y a les pharisiens et les sadducéens, les uns croyaient, les autres ne croyaient pas. Et il a balancé ça comme ça. Et pendant qu'ils se disputaient, lui s'est barré. Il était tranquille. Discuter entre vous. Voilà. C'est pour dire qu'ils avaient adopté la philosophie grecque, mes amis. Les sadducéens étaient hellénistes. Donc vous voyez comment une religion, une relation peut devenir une religion. Donc méfions-nous de la philosophie du monde, le monde, qui nous influence dans nos croyances et qui nous égare. Donc pour revenir à notre texte, nous voyons que ce que Paul dit, il dit « je regarde ». Toutes ces valeurs comme de la boue, toute la connaissance qu'il avait, tout l'héritage qu'il avait, toute l'identité de Paul, il la regardait comme la boue en relation avec cette connaissance de Christ. C'est pour montrer le gap entre quelqu'un qui est bien au-dessus de nous. Personne aujourd'hui ne peut se revendiquer d'avoir une connaissance comme Paul l'avait. Peut-être Léonard de Vinci à l'époque qui avait cette connaissance universelle, mais ça a disparu, maintenant ça n'existe plus. Personne ne peut avoir la connaissance universelle, c'est plus possible. C'est trop important. Paul, il avait cette connaissance supérieure. Et malgré ça, il dit, je regarde ça comme de la boue par rapport à la connaissance de Christ, par rapport à la relation avec Christ. C'est-à-dire que dans le domaine de la foi, elles sont incompatibles, donc toutes ces valeurs du monde, sont incompatibles, car c'est d'une autre nature, d'une autre essence, et ne peuvent jamais être autonomes. Autonome, ça veut dire avoir sa loi propre. Si la raison a sa loi propre, si l'expérience a sa loi propre, si la tradition a sa loi propre, on est fichu. C'est pour ça que j'insiste tellement sur le quadrilatère wesleyen. Le quadrilatère wesleyen, c'est un quadrilatère. Okay. En haut, vous avez les Écritures, qui est la parole de Dieu, qui est la référence normative, qui justement a disparu maintenant, puisqu'on est dans le relativisme, il n'y a plus de référence. C'est thèse, antithèse, synthèse. Voilà. Et donc, vous modifiez la référence en permanence. Dans le quadrilatère wesleyen, il y a les Écritures, qui commandent tout. C'est la vérité qui est révélée. Et ensuite, après, la tradition, la raison et l'expérience contribuent, non pas de manière autonome, mais de manière au service de l'Écriture. Au service. Elles sont servantes. La raison est servante de la foi. L'expérience est servante de la foi, de la foi dans les Écritures. Et la tradition aussi. Il ne faut pas les négliger, parce que sinon on tombe dans le mysticisme. Comme beaucoup aujourd'hui d'évangéliques dans l'expérience, qui elle est à mesure. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé notre discussion avec Jean-Marc Potenti, qui s'est extrêmement bien passé. On s'est retrouvés sur beaucoup de domaines et il est d'accord avec nous 100% là-dessus. Postmodernisme, c'est l'expérience. Le postmodernisme, c'est l'expérience. On veut l'expérience, on ne veut plus la tradition. Les vieux, c'est fini, ils n'ont rien compris. Voilà, tradition, fini. L'expérience, je veux expérimenter. Ah oui, ils expérimentent. Dans l'occultisme, vous expérimentez des choses. Ok. Mais comment vous faites pour faire le tri entre ce que vous expérimentez, ça vient de Dieu ou vient pas de Dieu? Ah, ils se battent. Ah, ça vient de Dieu. Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Vous entendez ça partout sur la planète qu'on discute. Il n'y a pas besoin de ça. Quand l'expérience est soumise à l'Écriture, ben vous avez des réponses. Vous n'avez pas besoin de faire des polémiques. Tout à l'heure, on a lu, Dieu veut que se soumette à la parole, à l'Écriture, au commandement, à ce que Dieu dit, pas ce qu'on pense, pas ce qu'on ressent, pas ce qu'on croit être, etc. Voyez, et on perd un temps fou avec ça, au lieu d'être des témoins dans le monde, au lieu d'être des ambassadeurs dans le monde. Donc, méfions-nous. Alors j'aimerais, juste en quelques points, dire ce que j'aurais dû dire en une heure. C'est un, la puissance de la résurrection. On a vu hier que le siècle à venir est un siècle de puissance. Le siècle présent, il y a aussi des puissances. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Mais c'est les puissances occultes. C'est les puissances de destruction, de chaos, du mal. Parce que le péché est entré dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance dont parle Paul en disant, voilà, je veux connaître la puissance, mon but est de connaître la puissance de sa résurrection. Et la communion de ses souffrances, la puissance de la résurrection. D'abord, la puissance, C'est une toute-puissance dont il parle, de Dieu lui-même. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre nous donne cette puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts comme la mesure de la puissance de Dieu. Il parle de l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il déploie dans toute sa force en le faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts, Éphésiens 1, 19. Tout ce que le grec connaît comme terme désignant la force, des mots qui sont entrés par francisation dans notre langue, comme dynamite, énergie, tout ce qu'il possède comme hyper, comme méga, pour renforcer une idée, il semble avoir accumulé là pour nous donner une lointaine idée de la puissance infinie de Dieu. Il dira la grandeur qui surpasse tout de sa puissance, de sa dynamite, selon l'énergie du pouvoir de sa force. C'est cette puissance que Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Waouh ! Toutes les religions, j'ai fait l'étude, hein, vous pouvez me faire confiance, j'ai regardé, toutes parlent de résurrection. En fait, c'est de la renaissance, pas de la résurrection. Renaissance, c'est des mythes. Osiris, Mitra, tout. Ils parlent tous. Donc on se dit, mince, toutes les religions parlent de résurrection. Eh oh, on se calme. Seul le christianisme, dis ton voisin, seul le christianisme parle de résurrection des corps. Seul le christianisme. Il faut que ce soit clair. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Son corps n'a pas connu la dépravation qui était prévue pour lui. Il est ressuscité. Il a eu un corps de résurrection. Et c'est ce qui nous attend, les amis, les frères et sœurs. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Sinon, c'est une religion. Si tu n'attends pas la résurrection de ton corps, tu passes à côté de la vocation qui t'est adressée. Parce que Dieu a fait l'être humain corps, âme et esprit. Et les trois sont bons. Il ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé en faisant le corps. Okay. Sauf que nous, on a péché. Ce n'est pas de sa faute, c'est nous. On a péché. Et on a tout détruit. Le corps, maintenant, il souffre. Et même la création souffre. Romain le dira, l'apôtre Paul dans Romain. Il souffre en attendant la résurrection d'entre les morts. Quand il y aura la résurrection d'entre les morts, on rentrera définitivement dans ce siècle à venir dont on a parlé hier. Hello ? Dis à ton voisin, tu ressusciteras des morts et ton corps vivra éternellement. Amen. On sort du dualisme corps-esprit où le corps est mauvais et l'esprit est bon. Les trois, corps, âme et esprit, seront rétablis comme Dieu l'avait promis. Amen. C'est important d'avoir des fondements sûrs, voyez. Parce qu'on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, la vérité glisse. Okay. À chaque fois, la synthèse glisse par rapport à la référence. Or, la référence, elle n'a pas changé. Ma parole demeure éternellement. Amen. Donc, la puissance de Dieu. Et je dirais même que la bombe atomique tombée sur Hiroshima a révélé au monde la puissance infinie et insoupçonnée cachée dans la matière apparemment inerte. La résurrection du Christ a révélé à l'humanité la puissance de Dieu. Qui aurait soupçonné que dans un caillou d'uranium de quelques kilos, vous voyez, imaginez que j'ai un caillou là de 2 kilos d'uranium. L'uranium, c'est quoi? C'est tiré de la terre, hein. C'est comme du charbon, sauf que c'est de l'uranium. Dans ces 2 kilos, on peut détruire tout Hiroshima. La matière, c'est de l'énergie. Et Einstein, quand il a eu la révélation, ce qu'il cherchait, c'est Max Planck hein, qui a commencé le premier à découvrir la théorie. C'est pas Einstein. Mais Einstein, il a cherché, c'est un chercheur. Puis un jour, il est sorti dans la rue, il a vu danser devant lui E égale MC2. Wow. Qu'est-ce qui lui a fait danser ça? C'est la révélation, c'est Dieu qui lui a révélé. Comme beaucoup de choses, c'est Dieu qui lui a révélé cette équation. C'est quoi cette équation? C'est que dans le caillou, matière, Eh bien, si vous multipliez ça, cette matière, par le carré de la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, vous avez ici l'énergie. L'énergie, c'est de l'énergie. Il suffit simplement de balancer des atomes pour dissocier les atomes qui sont dedans, et hop, quand il explose, ben ça donne l'énergie d'Hiroshima. Voyez-vous ? On n'est pas dans un dualisme, on est dans une connaissance de la variété infinie de Dieu qui, dans la matière, eh bien, l'énergie potentielle, elle est déjà là. Et Jésus eh bien, a manifesté cette puissance. Et pourtant, qu'est-ce que cette puissance de l'uranium en comparaison de celle de Dieu ? Parce que celle de Dieu est encore plus forte que ce qui est dans la matière. Hello ? Vous le croyez ? La matière, c'est Dieu qui l'a fait. Mais c'est Dieu qui a la puissance au-delà de la matière, d'une puissance de résurrection. Et ça s'appelle la vie. Et aucun scientifique aujourd'hui ne peut créer de la vie. On cherche la vie sur Mars, avec l'eau, tout ça. Là, on cherche. Mais personne n'arrivera jamais à créer la vie, parce que la vie est en Dieu. Elle n'est pas ailleurs. Vous le croyez, ça ? Vous doutez, non ? Non ? Ah, vous me rassurez. La vie est en Dieu. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est quelque chose qui est absolument inimitable par l'être humain. L'être humain peut manipuler. Bon, ils ont découvert que dans la matière, il y avait de l'énergie. Mais à quoi lui sert cette puissance ? À détruire. Bombe atomique, détruire. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait les centrales. Mais on est embêté par les déchets. Hein. Bon, alors ils veulent chercher la fusion. Tarasenko a travaillé là-dessus. Pas encore trouvé la fusion. Pour faire comme le soleil. Peut-être qu'ils vont trouver, c'est pas un problème. Hein. Sauf que les matériaux, on les a pas. Hein. Pour tenir des millions de degrés, des milliers de degrés, il faut faire l'expérience dans le vide. Sinon, ça marche pas. Donc avec du magnétisme, etc. Ils cherchent depuis 30 ans. Et pour l'instant, ils ne trouvent pas à faire. Parce qu'effectivement, là, il n'y aura plus de fissiles, de matériaux fissiles. Et donc, ce sera propre. Mais pour l'instant, ils ne trouvent pas. C'est la puissance de Dieu qui a dans sa main toutes les sources d'énergie de l'univers, qui a donné lui-même l'impulsion première à tous ces astres, par myriades qui gravitent dans l'espace à des vitesses, laissant loin derrière, les fusées créées par l'homme, pour aller d'un astre à l'autre. Le Christ est ressuscité par la puissance de Dieu. Connaître la puissance de sa résurrection, c'est donc d'abord connaître la puissance infinie et incommensurable de Dieu, du Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre. Et c'est ce que Paul dit. Mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection. Ainsi que la puissance infinie de la vie qui est en Dieu. Vous vous rendez compte ? Le privilège que nous avons. Le privilège que nous avons. Nous n'avons pas besoin d'être des grands scientifiques pour avoir la foi. Une personne qui n'a aucune éducation, quand elle a la foi, elle accède à cette puissance. Amen. Et vous accédez à cette puissance. Mais surtout, n'essayez pas de la dompter, de la dominer par vous-même. C'est Dieu seul qui est en charge de l'administration de cette puissance. Et il va nous ressusciter à la fin des temps, quand le siècle présent sera terminé, quand la fin de ce siècle aura été décidée par le Père. Deuxièmement, c'est une puissance de vie. D'abord, c'est une puissance absolument considérable, et ensuite, c'est une puissance de vie. L'homme a su découvrir d'immenses sources d'énergie cachées dans la matière. Mais qu'en a-t-il fait ? Une puissance de mort. La puissance de Dieu est une puissance de vie. L'homme sait utiliser l'énergie qui lui est donnée par Dieu. Il sait la transformer, libérer l'énergie contenue dans la matière, mais il ne sait pas la créer. Dieu seul a créé la vie. L'homme sait aussi étudier la vie, la transformer, la détruire, mais il ne sait pas la créer. Il reste un mystère pour les grands biologistes. Qu'est-ce qui a changé ? Dans la seconde qui sépare le moment où l'oiseau était perché sur une branche de celui où il est tombé mort sur le sol, il est toujours pareil, rien n'a changé dans son apparence, mais il ne peut plus voler, il ne peut plus bouger, il n'a plus de vie. Les savants ont échafaudé des théories complexes sur la transformation de la vie, de l'amibe à l'être humain, ce qu'on appelle l'évolution. mais on n'a jamais pu créer une seule amibe vivante ou rendre la vie à une amibe morte. Le problème des origines reste entier, avec ou sans évolutionnisme, car on n'a encore jamais résolu le problème de l'origine de la vie. Tout reste une théorie. C'est pas autre chose qu'une théorie, ça restera une théorie. C'est jamais une affirmation. Car Dieu seul peut créer la vie et la rendre à un corps qu'il a quitté à vie, que la vie a quitté. Le Père a la vie en lui-même, dira Jésus. Le Père a la vie en lui-même. Le Père donne la vie. Il ressuscite les morts. La puissance de la résurrection est une puissance capable de rendre la vie à un corps qui a perdu tout son sang, qui était enseveli depuis 3 jours, comme l'a été Jésus, le corps de Jésus. Et cette puissance, l'homme ne la possède pas et n'est pas prêt de la posséder. La puissance de la vie est capable de briser les pierres les plus dures, comme le fait le saxifrage lorsque ses racines s'enfoncent dans une roche. Elle rend de simples pousses de blé capables de soulever des charges 100 fois plus lourdes. Connaître la puissance de la résurrection, c'est connaître une puissance de vie. Et je termine, c'est une puissance de vie nouvelle. C'est une puissance de vie nouvelle. La vie de Jésus, après sa résurrection, n'était pas une simple reproduction ou une suite de sa vie d'avant la mort. C'est une vie nouvelle, avec des caractères nouveaux et différents. Il n'était plus soumis aux lois de la pesanteur, ni de la distance, ni de la mort. Le corps que Jésus a reçu, il n'est plus soumis à la mort. La mort a été vaincue. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, dira la parole. Et il n'y a plus de barrière infranchissable pour lui. Il passe à travers les murs, à travers les portes fermées. La puissance de la résurrection transforme la vie en une vie nouvelle. Aujourd'hui, grâce à la science, on sait que c'est possible. On sait que c'est possible de traverser les portes, de traverser les murs. Pourquoi ? Parce que dans la matière, il n'y a que du vide. Il y a très peu de matière. Il n'y a que du vide. Donc si vous avez un corps qui est de la même nature que ce que Dieu a créé, vous passez au travers des murs. Jésus est passé au travers des murs. Il est venu, il n'a plus le même corps. Et c'est ce corps que nous aurons. C'est ce corps qui était prévu pour nous dans l'Éden. Voilà. Alors, c'est pas excitant ça ? C'est pas un projet qui vous passionne ? Hein ? Voilà. Mais c'est ça, on doit être passionné par le but. Paul était passionné par ce but. En disant, voilà, on va retrouver notre destinée. On est destiné à avoir un corps, non pas qui souffre, qui est malade, qui a des problèmes. En attendant, ben on demande au Seigneur de nous aider, de nous avancer. On a de l'espérance. Mais le but, c'est d'avoir une réelle vie telle que Dieu l'a prévue. Hier, on l'a vu, et il ne faut pas déformer mes propos, on sera fils de Dieu. Fils de Dieu, parce que Dieu a prévu que nous soyons dans la présence de Dieu, parce qu'il nous a créés pour être à sa gloire. Amen. Ne cherchons pas à être fils de Dieu en ce moment, comme certains le revendiquent. Nous serons fils de Dieu quand nous aurons le corps de résurrection, toujours soumis au Père, toujours passant par un sacrificateur qui est Jésus, parce qu'on ne rentre pas en présence de Dieu sans sacrificateur. Donc Jésus est notre sacrificateur. Il est dit que Dieu a fait de Jésus sagesse, justification, rédemption pour nous. Et c'est lui qui est tout pour nous. C'est lui l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et nous avons ce Sauveur, mais ce Seigneur magnifique que nous pouvons célébrer ce matin. Prie un instant pour que nous puissions être dans la vocation qui nous est destinée, que nous puissions prendre cette vocation à cœur. Que ce ne soit pas juste un plus, voyez, à côté de nos loisirs, à côté de tout un tas de choses qui sont très bien. C'est très bien d'avoir des loisirs, c'est pas le problème. Paul aussi, voilà, il essayait de se détendre et tout ça. Mais n'oublions pas notre vocation. La vocation où le Seigneur voudrait qu'on soit des témoins de cette vocation. Amen. Que nous ne soyons pas affadis, comme le dit la parole dans l'Église, où il a dit, ce que je te reproche, c'est que tu es tiède. Le pire, c'est d'être tiède. Parce que celui qui sont froids, ils peuvent se rendre compte qu'ils sont froids. Celui qui est tiède, ils ne se rend pas compte. C'est comme la grenouille, hein, Vous mettez cela à 20 degrés et vous chauffez l'eau tranquillement. Et à 100 degrés, elle est morte parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que degré par degré, elle allait perdre la vie. Et c'est ça qui nous. C'est ça qui est le danger pour l'Église aujourd'hui. C'est que c'est comme la grenouille, la température monte, les mœurs se relativisent, on adopte ces mœurs, on les inclut même dans l'Église, on en fait, voilà, tout le monde fait comme ça, donc pourquoi pas? Non. Soyons de ceux qui croyons à notre vocation. Nous sommes destinés à vivre dans la résurrection comme Jésus l'a vécu. Amen. Seigneur, nous te prions afin que tu nous fasses grâce et que dans le temps présent, nous puissions vivre dans le siècle à venir, déjà maintenant, parce que c'est ce que tu as voulu. Que nous puissions, Seigneur, ne pas nous laisser affadir notre foi, notre zèle, mais que nous puissions être comme Paul, qui pouvait dire avec force et autorité, « Mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » C'est vrai que nous ne cherchons pas trop la communion des souffrances. Mais ça va avec, parce que dans ce monde, ceux qui ne croient pas comme nous, eh bien, ils voudraient que nous croyions comme eux, parce que quelque part ça les dérange, qu'on ait quelque chose de plus qu'eux. Alors Seigneur, pardon, de nous laisser attraper par ce piège, mais que nous puissions simplement rester debout et dire oui, le Seigneur est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, il est vraiment ressuscité. Amen. Disons-le tous ensemble, le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Et que ce soit là, eh bien, le motto de notre Pâques aujourd'hui.